sommes venus dire un certain nombre de choses à ceux qui nous gouvernent. La synthèse de la marche, c'est une paysanne qui la disait sur le bord de la route, en venant avec la marche de l'Ouest. Elle disait à ceux qui étaient auprès de nous, elle leur disait, nous allons à un mariage. Le mariage des ouvriers et des paysans, le mariage de l'Ypres et du Larzac. Au fond, toute cette marche nous permet aujourd'hui de comprendre qu'un événement capital se passe dans ce pays. Il y a quelque chose qui vient de disparaître de l'histoire. Jamais plus, les paysans ne seront des Versaillais. Jamais plus, ils ne s'opposeront à ceux qui veulent changer cette société. Nous l'avons prouvé et nous le prouverons tout au cours de cette journée, de cette soirée et de la journée de demain. Ce qui vient de naître, par contre, c'est que des paysans sont capables de s'organiser pour rejoindre le combat des ouvriers, des étudiants, contre le capitalisme, le patronat, contre la bourgeoisie. Nous l'avons dit à toute la population, nous continuerons à le dire, c'est le sens de toute cette marche et c'est le sens de ce que nous ferons ce soir et demain.
Voilà, ça se passait en 1973 sur le plateau du Larzac et c'était Bernard Lambert. Aujourd'hui, on parle de la Confédération paysanne. Alors évidemment, on risque de parler de José Bové, mais c'est pas spécialement la figure d'un des leaders de la Confédération paysanne qui nous intéresse, leader aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle, mais c'est plutôt d'essayer de comprendre qu'est-ce que cet espace politique, qu'est-ce qui se passe dans le monde paysan à travers cette organisation qu'est la Confédération paysanne. Et on essaiera à travers cette émission de comprendre son histoire, sa sociologie, ses liens avec d'autres organisations politiques non paysannes. Et peut-être qu'au final, ça nous permettra d'un peu mieux comprendre ce qui se passe à gauche de cette campagne électorale.
Et donc pour parler de ça, on reçoit Yvan Bruno, qui est politiste, hein, qui travaille à l'INRA et qui vient de faire une thèse en Sciences Po à Paris 10 sur la Confédération paysanne, confédération qu'il a beaucoup étudiée à la fois au niveau national et puis aussi au niveau local. Donc Yvan, pour débuter cette discussion, j'ai envie de te demander, mais comment t'en es arrivé à étudier la Confédération et comment t'as fait en fait pour sortir peut-être du discours médiatique sur ce syndicat, quoi.
Oui, c'est une bonne question, puisque avant, en fait, je travaillais sur le Front National. Donc le lien entre le Front National et la Confédération paysanne n'est pas évident. Il faut partir du démontage du McDonald's de Millau. En août 1999, souvenez-vous, donc les militants de la Confédération paysanne de l'Aveyron procèdent au démontage de ce McDonald's. Alors cette action syndicale est fortement médiatisée. Quatre militants sont d'abord mis en détention provisoire, puis José Bové va l'être, donc lui aussi être mis en détention provisoire. Donc cette action syndicale, donc l'action et les suites judiciaires font la une de l'actualité pendant un mois, jusqu'au début septembre 1999. Alors moi, je découvre la Confédération paysanne dans ce contexte. Donc c'est un contexte un peu particulier, d'ailleurs comme beaucoup de Français. Et je découvre donc en gros qu'il existerait en France des paysans de gauche organisés syndicalement. Pour moi, c'est une grande surprise. Alors, le monde agricole ne m'est pas totalement étranger. J'ai fréquenté, côtoyé des agriculteurs dans mon enfance et mon adolescence, dans le Calvados, dans une petite commune rurale. Mais j'avoue que les images qui m'apparaissent à ce moment-là entrent en contradiction avec mes propres représentations du monde agricole. Donc voilà, ça c'est en gros la Confédération paysanne. Au départ, pour moi, c'est une curiosité sociale. Voilà. Et puis, donc, c'est ce qui m'intéresse. Hein. Et puis, je m'aperçois aussi, assez rapidement, alors tout d'abord, que peu de travaux ont été consacrés à cette question en sciences sociales. Il y a des travaux sur l'histoire, mais peu sur cette réalité sociale. Ça, c'est un premier point. Et je m'aperçois donc aussi que cette histoire, et c'est ce qui m'intéresse aussi, est à mettre en relation avec mai 68. Avec les politisations du moment 68 au sens large, avec l'extrême gauche post-68arde, en gros. Voilà.
Justement, tu avais notamment fait un article dans La France Rebelle qui retraçait les grandes lignes de la constitution d'un syndicalisme paysan de gauche qui vient pas de nulle part, hein, qui a agrégé différentes forces politiques. Est-ce que tu pourrais dresser assez rapidement les grandes lignes de ce rassemblement des différentes forces paysannes de gauche, quoi.
Oui, d'accord. Alors la Confédération paysanne a été créée en 1987. C'est le résultat de la fusion de deux organisations donc déjà existantes, la CNSTP et la FNSP. Alors la CNSTP, c'est la Confédération nationale des syndicats de travailleurs paysans, créée elle-même en 1981. Et la FNSP, c'est la Fédération nationale des syndicats paysans, créée en 1982. Juste donc pour information, Bernard Lambert, que l'on vient d'entendre, était le porte-parole de la CNSTP. Donc voilà, la CNSTP, elle, s'inscrit dans la continuité du mouvement des paysans travailleurs. Le mouvement des paysans travailleurs apparaît après mai 68, grosso modo, oui, entre 68 et 72. C'est d'abord le résultat d'une contestation interne à certaines structures départementales de la FNSEA et du CNJA, donc ce qu'on appelle généralement le syndicalisme majoritaire, et donc dans les départements de l'Ouest essentiellement. Donc voilà, donc le mouvement paysan-travailleur, juste après mai 68. Alors, un des premiers moments de basculement, c'est en 1970, et ça se passe au congrès du CNJA à Blois. Là, on a deux rapports, c'est resté assez célèbre, hein, dans l'histoire de cette gauche paysanne. On a un premier rapport qui s'appelle le rapport Richard, qui s'appelle « Pour un syndicalisme de travailleurs ». Et donc, grosso modo, on a pour la première fois explicitement... comment dire, une première tentative de division de la profession agricole en classes antagoniques. Grosso modo, on a un discours de lutte des classes qui apparaît à ce moment-là, en 70, et puis ce sera confirmé en 72 et en 74. Alors, donc, le rapport Richard représente en gros cette opposition à la direction du CNJA en 1970, mais les partisans du rapport Richard recueillent 45% des voix. Donc ils ne sont pas majoritaires, enfin ça correspond quand même à une grosse minorité, peut-on dire. Donc dès lors, c'est ceux qui se définissent comme travailleurs vont s'autonomiser, ils vont chercher à sortir progressivement du CNJA. Alors on a ensuite, à l'époque ça s'appelle des journées nationales, hein, et pas encore des congrès, donc les journées nationales d'Orléans et de Rennes en 72 et 74, des tentatives d'organisation de ce courant oppositionnel, donc à la direction du CNJA. Voilà, et ça débouche, hein, je vais vite, mais ça débouche sur la création de l'Association nationale des paysans travailleurs, c'est une association, c'est pas un syndicat, en 1974. Voilà. Alors, rapidement, alors quelle est la spécificité de ce... des paysans travailleurs. Quelle est la spécificité des paysans travailleurs? Deux choses. Ce discours de lutte des classes, on parle à l'époque de syndicalisme de classe, hein, dans le monde paysan, avec d'un côté les agriculteurs capitalistes, comme on les appelle, et de l'autre côté les agriculteurs exploités. Ça, c'est un premier point. Et la deuxième originalité, on peut dire, c'est la volonté de créer des alliances de classe avec les ouvriers. Donc dans le cadre de ce qu'on appelait à l'époque donc des luttes à la base, hein, pour reprendre le vocabulaire de l'époque. Et dans cette logique, donc on a, hein, dès les années 70, des luttes, des actions qu'on appelle anticorporatistes. Hein. Déjà à l'époque, ça c'est très important pour comprendre l'histoire de cette gauche paysanne, donc des alliances donc avec certains groupes ouvriers en grève, par exemple, hein, je pense évidemment à LIP, mais à Renault, et à bien d'autres, aux joints français, hein, en Bretagne, etc.
Et il y a des associations entre les paysans et les ouvriers qui sont issus du monde paysan, notamment, enfin, je pense aux bâtiments, aux grandes entreprises de la métallurgie, où il y a beaucoup d'ouvriers qui sont issus du monde paysan, où il y a cette transition. Hein.
Oui, souvent le lien se fait de cette façon-là, effectivement, et souvent par des liens familiaux d'ailleurs, sur le lieu de certaines grèves. Alors juste pour préciser, ces luttes, parce que ça c'est un point qui me semble intéressant, donc ces alliances dans des luttes exemplaires, alors les ouvriers sont en grève et généralement les paysans travailleurs amènent de la nourriture gratuitement, hein, aux ouvriers en grève. Généralement c'est comme ça que ça se passe, hein, outre les communiqués de presse, etc.
Oui. Oui, non, et aussi, comme tu dis que ça ressort de 68, est-ce qu'il y a des liens avec les mouvements plus partisans de l'extrême gauche?
Alors oui, on peut aborder ça maintenant. Alors, C'est important parce que ça me permet de, ça me donne l'occasion de rebondir sur Bernard Lambert. Bernard Lambert publie en 1970 Les paysans dans la lutte des classes, qui est l'ouvrage phare de toute cette génération hein, de paysans travailleurs et de paysans de gauche et d'extrême gauche post-68. Hein. Les paysans dans la lutte des classes, publié aux éditions du Seuil, est préfacé par Michel Rocard. Michel Rocard, donc leader du PSU, hein, Parti Socialiste Unifié à cette époque-là, et Bernard Lambert est donc membre de la direction nationale du PSU. Ça, c'est très important, parce qu'à cette époque-là, après 68 et au début des années 70, les jeunes paysans-travailleurs regardent plutôt du côté du PSU, sans être véritablement militants, enfin ça peut se produire, mais ils sont rarement militants, mais grosso modo, l'offre partisane qui correspond le mieux, selon eux, à leurs orientations syndicales, c'est le PSU. Puis, donc, à partir de 72, on peut dire, hein, 72-74, ils se tournent davantage vers l'extrême-gauche, hein, les mouvements, ce qu'on appelait les mouvements gauchistes, hein, maoïstes et trotskistes.
Et la CFDT, par exemple, n'a jamais essayé de recruter dans le monde syndical ?
Dans le monde syndical agricole ?
Ouais.
Alors, la CFDT, alors ça dépend des... Non, c'est chez les paysans, non. Mais il y a des liens à travers les salariés agricoles, qui eux donc sont souvent syndiqués à la CFDT. Et puis il y a des relations qui existent dans certains départements. Des fois il y a des relations fortes qui ont été tissées, je pense en Loire-Atlantique, hein, où là des relations existent même avant 68. Ce qui fait que par exemple en Loire-Atlantique c'est intéressant parce que là, pour le coup, les paysans et les ouvriers participent ensemble au mouvement de mai. Mais c'est quand même assez exceptionnel. En général, il faut attendre après 68 pour que les paysans deviennent 68ards. On peut dire ça. Souvent, hein, mes enquêtés, les militants m'ont dit « j'ai fait 68 en 70 » ou « j'ai fait 68 en 74 ». Il y a eu ce petit décalage. Mais on peut quand même parler de paysans 68ards ou pas 68ards.
Et si, sur le mouvement de 68 et les paysans, si pour les étudiants, pour les ouvriers, on comprend un peu ce qui a déclenché le basculement vers le militantisme, qu'est-ce qui se passe au niveau de la paysannerie française pour qu'un tel mouvement à la gauche, enfin d'extrême gauche, apparaisse à ce moment-là ?
Alors, il y a plusieurs éléments, mais pour les paysans travailleurs, ce qui est le plus important, probablement, c'est la question foncière. C'est-à-dire qu'on a dans énormément de départements, c'est-à-dire qu'on a une demande de terre qui est supérieure à l'offre. Et donc, énormément de jeunes agriculteurs ont du mal à trouver les terres pour s'installer. Ça pose un gros problème, d'où des luttes foncières qui ont pour enjeu l'accès au foncier. Ça, c'est très important, d'où l'engagement des paysans travailleurs dans des luttes généralement de soutien aux fermiers qui sont en conflit avec leurs propriétaires. Alors ça, c'est très très important. Hein. Dans toutes les années 70, on a des luttes foncières qui vont se transformer en affaires foncières, c'est-à-dire des affaires judiciaires qui parfois vont durer une dizaine d'années. Alors il y a ce premier point qui est important. Alors après, il faut reprendre la terminologie de l'époque. Hein. Qu'est-ce qu'entendent les paysans travailleurs, par exemple, par paysans exploités ? Selon eux, ce sont des paysans qui sont sous la domination des firmes. Hein. Comme à l'époque, on appelle ça des firmes. Et donc, en grosso modo, on dénonce le système capitaliste et la dépendance croissante des paysans à l'égard des industries, des coopératives, du crédit agricole. Le crédit agricole qu'on dénonce parce que, selon ces paysans, il a poussé les jeunes agriculteurs, en tout cas, à s'endetter, parfois à se surendetter. D'où des situations de faillite. Et ça, c'est très important. Alors, au début des années 70, on y reviendra probablement. Donc, c'est essentiellement l'Ouest. J'ai insisté là-dessus parce que ce sont essentiellement des jeunes agriculteurs modernisés qui ont repris l'exploitation de leurs parents, qui se sont parfois endettés et parfois donc surendettés, qui se trouvent dans des situations difficiles. Voilà. C'est-à-dire que même la modernisation, n'interdit pas des situations difficiles.
Alors, on va essayer d'avancer. Est-ce qu'on voudrait parler du Larzac, Larzac 73, on en a entendu un extrait tout à l'heure. Est-ce que ça a cette position pivot, telle qu'on a pu se l'imaginer 30 ans plus tard, en 2003, ça a cette position pivot dans la fondation d'un mouvement à gauche de la gauche, dans le mouvement paysan, ou c'est...
Comment dire Disons que le Larzac a permis, en tout cas à certains mouvements militants, de mieux connaître cette gauche paysanne. C'est important, hein, puisque Bernard Lambert donc intervient à ce moment-là. Et donc, alors qu'avec ce fameux discours, hein, plus jamais les paysans ne seront des Versaillais, plus jamais ils ne s'opposeront à ceux qui veulent changer la société. Alors, est-ce que c'est un rôle pivot ? Non. Je ne peux pas dire que ce soit que le Larzac ait joué un rôle pivot. En revanche, c'est important parce que ça permet donc à ces agriculteurs de l'Ouest, du Nord ou de la région Rhône-Alpes de mieux connaître les régions du Sud de la France, hein, qui sont des régions plutôt donc désertifiées à l'époque, hein, c'est l'exode rural, l'exode agricole, et donc dans l'histoire du mouvement, c'est important. Sinon, c'est plus important probablement pour l'imaginaire de ceux qui, enfin des militants hein, et ceux qui ont suivi le mouvement du Larzac probablement.
Et toujours, donc, si on avance dans la progression du syndicalisme paysan de gauche, bon, l'arrivée du Parti socialiste au pouvoir en 80 est quand même marque une rupture, parce que là, il y a une forme de reconnaissance de ce syndicalisme contre les structures dominantes de la FNSEA.
Oui, effectivement. C'est-à-dire que, alors en 80, donc il y a la victoire de Mitterrand, c'est Élie Cresson qui est nommé ministre de l'Agriculture. Et effectivement, dans un premier temps, on peut dire qu'elle satisfait les attentes de cette gauche paysanne, donc la SNSTP, hein, créée en 81, et la FNSP, donc en 82. Alors, qu'est-ce qui se passe donc à ce moment-là
Excuse-moi, j'ai un bête truc, je pense à Cresson à l'agriculture.
J'étais en train d'y penser aussi.
J'avais jamais pensé à ça.
Certains l'ont pensé pour toi, je crois. Et donc... Donc, qu'est-ce qu'elle fait, Edith Cresson, ministre de l'Agriculture. Donc, elle reçoit ces organisations minoritaires, et c'est une première. Elle les finance, elle leur accorde un financement, et c'est important dans l'histoire de cette gauche paysanne. Et elle crée ce qu'on va appeler à l'époque les États généraux du développement agricole. Alors, c'est quoi les États généraux du développement agricole? C'est une procédure pour faire remonter les revendications de la base. Ce qui concrètement revient à dénier ce droit à la FNSEA et au CNJA, donc syndicalisme majoritaire. Donc autant vous dire que ces deux organisations ont très très mal pris l'organisation de ces états généraux, d'où notamment la fameuse grande manifestation des 100 000, hein, comme on les a appelés, les 100 000 agriculteurs à Paris en 1982. Alors ça, c'est une période un peu euphorique hein, pour la gauche paysanne, la période Cresson, mais qui va se terminer par les élections de 1983. Puisque pour la première fois, donc, ces organisations se présentent aux élections professionnelles, aux élections aux chambres d'agriculture. La CNSTP recueille 7% des voix, la FNSP 6%, et les listes de la coalition FNSEA-CNJA près de 70%. Pour le gouvernement socialiste, il est hors de question donc de privilégier les petites organisations de cette gauche paysanne. Et pour le gouvernement, le syndicalisme majoritaire apparaît comme incontournable. Je finis juste là-dessus parce que c'est quand même très très important. Édith Cresson est remplacée par Michel Rocard donc en mars 1983. Fin 1983, Michel Rocard met en place une circulaire. Qui circulaire sur la représentativité des organisations agricoles, qui fixe le seuil de représentativité à 15%. Ce qui fait qu'énormément de structures départementales de ces syndicats ne peuvent pas être considérées comme représentatives. Rares sont celles qui sont considérées comme représentatives dans les départements. Et donc, pour la gauche paysanne, c'est un échec, c'est une énorme déception, quand on pense que Michel Rocard avait préfacé l'ouvrage de Bernard Lambert en 70, et s'ouvre à ce moment-là une longue période... De ce que j'ai appelé une longue période de défiance hein, à l'égard du PS, c'est-à-dire que là, il y a un creux qui va durer des années où, quand on regarde notamment les archives nationales, les jugements à l'égard de la politique agricole du gouvernement socialiste sont très, très sévères.
Ouais, pourquoi ils ont échoué, en fait, à ces élections, ces deux syndicats? Qu'est-ce qui a fait que les paysans ne se sont pas tournés vers eux?
Alors c'est un peu difficile comme ça de répondre à cette question, surtout 25 ans après. Mais alors d'abord, ce sont deux organisations qui viennent d'être créées, hein, deux organisations syndicales qui viennent d'être créées, 81 et 82, les élections ont lieu en janvier 83. Ce sont quand même des organisations qui, à l'époque, tiennent un discours que nous, aujourd'hui, on qualifierait de discours d'extrême-gauche. Il y a encore la dénonciation, quand même, malgré tout, du système capitaliste. Même si des expressions comme lutte des classes, paysans exploités, ont tendance à disparaître, il y a un discours quand même très dur hein, sur le système économique. Et aujourd'hui, on qualifierait ce discours de discours d'extrême-gauche. Dans le monde paysan, ce discours ne passe probablement, évidemment, pas très bien, quoi, évidemment.
Alors on va arriver à 1987. 1987, c'est la fondation de la Confédération paysanne. Qui ça rassemble et qu'est-ce que ça change? C'est seulement un rassemblement ou il y a vraiment une remise à plat de ce qui va fonder le syndicalisme paysan?
Alors, donc création de la Confédération paysanne, fusion de deux organisations. Alors, ces organisations ont une histoire un peu différente. Hein. Donc, les paysans travailleurs, c'était un mouvement qui... plutôt des militants qui ont toujours refusé de se compromettre dans les instances de représentation du monde agricole, qui ont toujours eu un discours très dur sur les coopératives, par exemple, ce qui n'est pas le cas de la FNSP. Donc dans énormément de départements, il va y avoir des tensions entre ces deux courants. Hein, je pense par exemple à la Loire-Atlantique. La Loire-Atlantique, c'était donc... on a en Loire-Atlantique la FDSEA. Alors j'ai oublié de vous dire ça quand même. La FNSP a été créée par des structures départementales dissidentes de la FNSEA. La FDSEA de Loire-Atlantique a été exclue en 1978 de la FNSEA. Donc, pour prendre l'exemple de la Loire-Atlantique, on a cette FDSEA qui a été majoritaire, donc qui est pilier de la FNSP, et un groupe de travailleurs paysans. D'accord ? Anciennement paysans-travailleurs. Donc il y a deux traditions différentes, et c'est pas simple dans certains départements. Parfois, il va falloir plusieurs années, parfois 10 ans, avant que ces deux courants se rassemblent derrière le logo Confédération Paysanne. Ça va pas être simple. Donc il faut créer une organisation en 87. Il faut créer une organisation. Il faut créer l'unité d'une certaine façon. Alors comment on fait ? Alors il y a au niveau national dans les structures, on crée un secrétaire national composé de 5 membres, 2 membres de l'ancienne CNSTP, 2 membres de l'ancienne FNSP par exemple. José Bovet, pour l'anecdote, représente la CNSTP dans ce premier secrétariat national en 1987. Ensuite, il faut créer une organisation. D'abord, il faut se faire connaître, il faut s'implanter. Voilà, les mots d'ordre, c'est ça en 87. Implantation, organisation, structuration, formation des militants, presse militante, voilà, c'est ça. Et communication des revendications. Et se met en place, après, on va dire, à fin des années 80, début des années 90, toute une théorie de l'action, par exemple. On voit dans les archives nationales des réflexions sur les actions non violentes et sur les actions symboliques, pour se démarquer, par exemple, de la FNSEA. Fucking crazy.
Larzac, Roman, Péchinet, Lip, le plus beau coup de pied au cul de l'année, au gouvernement. Ouais. 130 jours que 1300 ouvriers de chez Lip luttent pour conserver leur emploi, pour donner à leur famille la nécessité de la vie. Depuis 130 jours, une poignée de travailleurs décidés fait reculer le capital, le trust multinational suisse Ebochessa, devant son plan qui avait eu l'assentiment du gouvernement parce que les élections françaises demandaient à la circonscription du Doubs l'élection de 2 députés de la majorité. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans notre usine de Palante. Marcelin et ses martiens sont venus la veille du 15 août semer le désordre, sortir les ouvriers de leur lieu de travail. Mais sachez que l'usine de l'ouvrier n'est pas là où sont les murs vides, mais bien où sont les travailleurs.
Voilà, alors on vient d'entendre dans l'ordre Quinino et puis un extrait de ce qui s'est passé au Larzac en 1973 avec un des représentants des ouvriers de chez Lib qui était présent sur le plateau du Larzac. On est toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission Les Oreilles Loin du Front et on reçoit ce soir Yvan Bruneau qui nous parle de la Confédération Paysanne.
Oui, Yvan, donc on voudrait un peu comprendre maintenant qui sont ces militants de la conf, parce que bon, on a souvent entendu aussi dans la bouche des syndicats concurrents qu'une partie des militants de la conf étaient des gens venus de la ville qui ne connaissaient rien au monde rural. Et Beauvais a fait l'objet de ces critiques. Bon, toi qui as mené des enquêtes plus locales, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu as vu, qui sont ces militants, d'où est-ce qu'ils viennent, etc., etc.
Oui, alors d'abord, il faut, tu as raison effectivement de poser cette question. Ce sont, il faut le dire, de vrais paysans, si j'ose dire. Qu'ils soient néo-ruraux ou fils ou filles d'agriculteurs, quoi qu'on en pense, ce sont de vrais paysans, c'est-à-dire qu'ils exercent le métier de paysan et ils tirent le revenu principal de leur métier de paysan. Je crois que ça, c'est un point important. Alors après, donc les néo-ruraux, je pense qu'on peut continuer là-dessus, ne sont pas majoritaires à la Confédération paysanne, loin de là. Ils peuvent l'être, en tout cas occuper une place importante dans certaines structures départementales, notamment dans le sud, mais dans l'ensemble, non. Quand on va à un congrès de la Confédération paysanne ou un congrès national, comme je l'ai fait, on s'aperçoit qu'on a, dans l'ensemble, essentiellement affaire à des fils et des filles d'agriculteurs. Donc voilà.
Et est-ce que ça change quelque chose? Devenir d'être fille ou fils d'agriculteur ou d'être venu plus tard à la terre sans tradition familiale, est-ce que ça change quelque chose dans les manières de faire, dans les manières d'agir?
Oui, alors on peut effectivement penser ça. C'est-à-dire qu'on peut, grosso modo, si je cherche à résumer, dire que les néo, notamment dans les départements du Sud, et en particulier ceux qui ont un passé militant gauchiste, ou en tout cas à l'extrême gauche dans les années 70, se situent, sont plus radicaux aujourd'hui dans leurs pratiques, dans leurs actions syndicales. Ça, on peut le dire, sans trop se tromper. Alors après, encore une fois, il faut distinguer selon le département, parce que il y a même des conflits aussi qui opposent les néo-ruraux au sein de la Confédération paysanne. Même la catégorie des néo de la conf n'est pas homogène. Donc voilà, il faudrait encore une fois préciser. Quoi.
Justement, précisons cet aspect-là, parce que on peut se demander d'une part comment les gens qui sont fils et filles d'agriculteurs sont arrivés à ce militantisme syndical de gauche, probablement un peu contre leurs parents, j'imagine. Et d'une part, et d'autre part aussi, on peut se demander comment des militants d'extrême gauche sont arrivés à la terre, quoi, du coup.
Oui, alors donc c'est ce que j'essayais de faire dans ma thèse, c'est-à-dire reconstituer des trajectoires sociales et militantes. Alors on peut partir d'un a priori qui est de dire on aurait d'un côté donc ceux que j'appelais les héritiers, les fils et les filles d'agriculteurs, et de l'autre les néo. Donc ce que j'essayais de faire dans un premier temps, c'est d'interroger ces catégories. Regardez par exemple les néo, prendre les trajectoires des néo. Les néo-ruraux, en l'occurrence, c'est une catégorie qui tente à homogénéiser les origines sociales et les trajectoires de ces militants. Et cette homogénéité est en partie factice. Quand on regarde les origines sociales, les trajectoires sociales, c'est-à-dire les trajectoires scolaires, par exemple, les parcours professionnels antérieurs à l'installation, on a en réalité une grande hétérogénéité. Donc ça, c'est le premier point. Loin des analyses sur les néos qui ont été faites à un moment donné, on les a généralement présentés comme des bourgeois, en tout cas des fils de bourgeois, bacheliers, ayant fait des études, etc., étant retournés à la terre après avoir été étudiants, donc les babacools, etc. Disons que les néos que j'ai rencontrés ne correspondent pas à ce portrait. Voilà. Grosso modo, pour dire rapidement les choses, on a beaucoup, par exemple, de fils d'ouvriers. Hein. Certains ont fait une formation agricole initiale, c'est-à-dire un collège ou un lycée agricole. Et nombreux sont ceux qui ont un parcours professionnel dans le monde agricole, berger par exemple, salarié agricole, berger, avant de s'installer. Donc ça, je crois que c'est un premier point. On a d'autres portraits, hein, on a d'autres possibilités. José Bové, par exemple, lui est fils évidemment donc de chercheurs en biologie. Hein. Donc là, on n'est pas du tout dans ce cadre-là, mais on a aussi des fils de médecins. Mais c'est pas la règle et c'est pas la norme, en tout cas chez ces néo-ruraux. Ça, je crois que c'est le premier point qu'on peut souligner. Alors sur les héritiers maintenant, quelle est la particularité des héritiers de la Confédération paysanne? Ils sont, ça c'est un premier point important, en général plus diplômés que les agriculteurs de leur génération, si on rapporte à leur génération scolaire. C'est-à-dire, si on prend en compte l'évolution, c'est un peu... faut rentrer dans les détails, là, si on prend en compte l'évolution des possibles scolaires depuis 45, grosso modo, avoir son bac dans les années 50 n'avait pas le même sens et la même valeur qu'avoir son bac à la fin des années 90. Il y a eu, comme dans tout le système scolaire, une évolution de l'offre des formations agricoles. Donc, si on travaille par génération scolaire, les militants de la Conf sont toujours plus diplômés que les agriculteurs de leur génération. Ils ont été plus longtemps scolarisés.
Ils sont plus malins.
Je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, ça, c'est un premier élément. Mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin, puisqu'il faut prendre les scolarités des frères et sœurs. Et là, si on prend les scolarités des frères et sœurs, on s'aperçoit qu'en règle générale, ils sont eux aussi plus diplômés. Ils sont en général bacheliers. C'est-à-dire ceux qui sont sortis du monde agricole. Bacheliers ont fait des études. Alors pour ceux qui ont de la génération, grosso modo ceux qui ont été au lycée dans les années 60, c'est très important, parce que là, pour le coup, on a affaire à une véritable élite sociale, en tout cas scolaire, au sein même du monde agricole. Les parents ne sont pas forcément les plus gros agriculteurs du canton ou du coin, loin de là. Mais en revanche, ce sont des parents acquis à la modernisation, pour reprendre cette première génération, et donc qui diffuse, en tout cas, un intérêt pour le savoir, pour le savoir technique et pour le savoir scolaire en général. Voilà. Ça, c'est, on peut dire ça. Alors l'autre particularité, et je terminerai là-dessus, de ces héritiers, c'est que généralement, ils ont exercé une autre profession avant de s'installer. Enfin, en tout cas, c'est assez fréquent. Et donc, ils s'installent tardivement après avoir été salariés dans le monde agricole. Comme je sais pas, enseignant, par exemple, dans le monde agricole, ou salarié agricole, ou technicien dans une coopérative, par exemple, ou hors du monde agricole. Ça, certains ont été éducateurs, par exemple. Ça revient assez souvent. À l'époque, dans les années 70, on pouvait être éducateur sans diplôme, voilà, pour prendre un exemple. Donc, voilà. Donc, ils s'installent plus tardivement, après une expérience du salariat qui peut être longue, parfois 10 ans. Certains s'installent à plus de 30 ans, ce qui est quand même assez rare dans le monde agricole.
Et alors, est-ce que y a une dimension générationnelle à l'apparition de la Confédération paysanne ou des formes syndicales qui lui ont précédé? Est-ce que cet aspect générationnel a sens? Est-ce que ça se vérifie que, grosso modo, ça serait plutôt les jeunes d'un côté ou pas?
Alors, est-ce que ça joue? Oui, alors oui, ça peut jouer, puisque par exemple, si on part d'un congrès, par exemple, qu'on écoute les prises de parole, on peut voir un militant, en grosso modo, qui aurait une soixantaine d'années aujourd'hui, qui a commencé à militer dans l'après 68, et qui lui va, certains tiennent encore un discours de lutte des classes, par exemple. Alors, ce discours de lutte des classes, chez les plus jeunes, disons qu'on le trouve beaucoup plus rarement, par exemple. On a aussi, ça a un sens sur le moment de l'engagement, si on travaille sur des trajectoires militantes, sur l'entrée en militantisme. Pour les héritiers, par exemple, j'ai distingué la génération 68, la génération 81 et la génération des plus jeunes. Et je me suis aperçu qu'on peut distinguer des processus de politisation différents. Si vous voulez, je vais continuer. En 68... Il faut évoquer les expériences sociales de ces générations. En 68, la plupart du temps, un jeune, donc, ces jeunes fils d'agriculteurs, fils ou filles, donc vont jusqu'au certificat d'études primaires, le CEP, un peu au collège, parfois en maison familiale rurale, et ils reviennent sur l'exploitation familiale pour être aides familiaux. Alors les aides familiaux, c'était quoi? C'était qu'on travaillait sur l'exploitation des parents en ayant un peu d'argent de poche, parfois pendant 10 ans, en attendant le moment de la succession. C'était ça, grosso modo. Et donc, on était quand même coupé des autres jeunes, quoi. Hein. Donc, il y avait un cloisonnement des sociabilités. On se côtoyait entre paysans. Donc, ce qui change pour la génération d'après, c'est que d'abord, on va plus loin dans les études. Hein. Donc, on va au collège, au lycée agricole. Et donc, on fréquente plus longtemps des jeunes non issus du monde agricole. Ça, c'est important. Il y a une crise de la situation d'aide familiale, on est moins longtemps aide familiale. Dans les processus de formation, on fait des stages sur d'autres exploitations. Donc, grosso modo, on a un décloisonnement des sociabilités. Et donc, les processus de politisation, généralement, quand on écoute les militants, souvent, ils évoquent leur rencontre avec des lycéens qui, eux, étaient déjà politisés, hein, qu'ils rencontrent au lycée agricole ou ailleurs. D'ailleurs, ils s'engagent, leurs premiers engagements se font parfois en dehors du monde agricole, dans les mouvements antinucléaires, écologistes de la fin des années 70, ce qui n'était pas le cas pour la génération précédente, par exemple. Génération précédente, celle des paysans dans la lutte des classes, pour aller vite, on se politise à gauche, et le sens premier de cette politisation, c'est de pouvoir qualifier les rapports de force au sein du monde agricole. Ce n'est plus tout à fait le cas pour la génération d'après, par exemple. Voilà.
Alors si on continue sur la génération de 80, les moments de politisation, tu les vois comment ?
Alors, il y a quand même l'entrée... Il y a 80, c'est-à-dire que 81, on a tendance à l'oublier, mais c'est quand même un formidable espoir pour toute une génération de jeunes d'une vingtaine d'années, 20, 25 ans.
C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. Ils ont fait ce qu'il fallait pour.
C'est vrai. Donc 81, en général, est une victoire. Pour ces jeunes, c'est une victoire. Alors c'est vrai qu'à la différence de la génération précédente, dans la génération précédente, on avait l'extrême-gauche et ceux qui étaient plutôt proches du PS. Dans la génération 80, on a moins de militants d'extrême-gauche et plutôt des sympathisants ou des militants, mais plus souvent sympathisants du PS. Alors évidemment, une grosse déception, d'ailleurs j'en ai parlé tout à l'heure, après 83. 84, c'est la mise en place des quotas laitiers. Et pour cette gauche paysanne, la mise en place des quotas laitiers est une catastrophe. Eux, ils proposaient... Alors les quotas laitiers, il faut peut-être rappeler. On a une surproduction au niveau européen, surproduction laitière. En tout cas, c'est interprété comme ça à Bruxelles. Donc Bruxelles recommande aux pays de contingenter la production nationale. Là, les gouvernements ont le choix. Ils ont plusieurs possibilités. En France, on choisit de limiter la production de chaque producteur de la même façon, de façon uniforme. C'est-à-dire qu'on va enlever 10% sur la production de chaque producteur. Donc des petits producteurs, à l'époque on a des producteurs qui produisent 50 000 litres de lait à l'année, par exemple, ce qui est très faible, se trouvent pénalisés puisqu'ils ne peuvent pas augmenter leur production. Ils se trouvent privés de la possibilité d'augmenter leur production à terme. Et donc par rapport à ça, la gauche paysanne, la CNSTP et la FNSP proposaient le quantum, qui était un système de prix différencié, avec un prix élevé pour les premiers litrages et un prix plus faible, donc pour, à partir d'un certain seuil, pour en gros avantager les petits producteurs. Ce système n'a pas été retenu. Et pour la gauche paysanne, c'est une déception, et c'est une déception énorme.
Alors juste, moi je voulais revenir sur complètement autre chose pour continuer à essayer de qualifier un peu ce qu'est la Confédération paysanne. Je voulais revenir sur la place des femmes, la place des femmes dans la Confédération paysanne. Est-ce qu'elle y a une place différente que est-ce qu'il y a quelque chose qui évolue et une place différente que dans les autres organisations, les organisations majoritaires ?
Dans le discours, oui, sans aucun doute. Il faut, par exemple, pour en donner illustration, il faut repartir de certains articles de Vent d'Ouest. Vent d'Ouest, c'était le journal des paysans travailleurs dans les années 70. Et là, on a des articles féministes. Concrètement, on peut les qualifier de féministes sur la place des femmes sur l'exploitation et sur la place qu'il faut attribuer aux femmes dans les organisations syndicales. Donc, on a toujours cette tradition est restée, la Confédération paysanne. Hein. On a eu, par exemple, la Confédération paysanne s'est battue pour l'allongement du congé maternité, pour ne prendre qu'un exemple, hein, longtemps. Elle s'est battue aussi pour la reconnaissance d'un statut qui pourrait donner droit, un statut qui puisse donner droit à des droits pour la retraite. Donc ça a toujours été très important. Alors après, si on prend au sein de l'organisation, je crois que c'était ta question. Donc, au sein de l'organisation, les femmes ne sont pas absentes, mais elles sont très, très minoritaires. En 2002, ça fait sourire généralement quand je dis ça, lors d'une Assemblée générale nationale, il a été admis qu'il faudrait respecter la parité au sein des structures nationales, du comité national et du secrétariat national, mais c'est une parité d'un tiers. Donc ils ont appelé ça la parité d'un tiers, c'est-à-dire qu'au sein du comité national et du secrétariat national, un tiers des postes sont attribués automatiquement aux femmes. Donc ça relève à la fois, enfin ça révèle à la fois une préoccupation, hein, et en même temps la faible présence des femmes dans les rangs militants en général.
On rappellera aussi que dans notre émission, on a un discours très féministe, mais la seule femme qui est présente aujourd'hui est sur une chaise dans le fond du couloir.
Tout est bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon, c'est bon. La ratée, les rognons, la queue en tire-bouchon. C'est bon. Désormais je veux chanter le cochon. le pâte et le saucisson. Répétons sur cette terre polisson. Qui c'est qui est bon, c'est le cochon, c'est bon. Je pourrais dire bien des choses sur son talent. Il a la couleur des roses sans leur piquant. Et puis quand on a terminé les bons morceaux, reste de quoi faire des souliers et des pinceaux. Et ça c'est bon. Bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. La ratée, les rognons, la queue entière, bouchon. C'est bon, c'est bon. Désormais je veux chanter le cochon. La la la, le pâté et le saucisson. Répétons sur cette terre polisson. Qui c'est qui mange le cochon? C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Oh, c'est un régime allégé. La résistance passe par le gobage effréné. Triette du c'est une drogue, une friandise, à un tel point qu'on en planque dans les valises, comme Jean Gabin. Ça c'est pas bien, il faut pas le faire.
C'est bon.
Tout est bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon. C'est bon. La ratée, les rognons, la queue en tire-bouchon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Désormais je veux chanter le cochon, le pâté et le saucisson. Répétons sur cette terre pollution. Qui c'est qui est bon, c'est le cochon, c'est bon. C'est bon. Philosophique. Rassurez-vous, philosophique de base. Hein. Le cochon est tellement sage qu'en son honneur, je vous délivre un message qui vient du cœur. Battons-nous pour les droits de l'homme avec raison, puisqu'on dit souvent que les hommes sont des cochons. Bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon, c'est bon. La ratée, les rognons, la queue entière, bouchon. Aïe aïe, c'est bon. Désormais je veux chanter le cochon, le pâté et le saucisson. Répétons sur cette terre pollution.
C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon.
Ouh là mon petit gars, je vais te dire. Tu sais que c'est bon, c'est le cochon. C'est bon.
Le Larzac est à la croisée des chemins, à la croisée des luttes. Dans la résistance inlassable des paysans du Larzac, tout un peuple s'est reconnu. La jeunesse qui vomit l'armée s'est retrouvée. Le mouvement paysan s'est rassemblé. Nous sommes aujourd'hui sur le plateau. Que le pouvoir le sache. S'il veut exproprier, nous reviendrons. Nous sommes ici des milliers de paysans. Paysans travailleurs venus de plusieurs régions de l'Hexagone et paysans progressistes d'Occitanie liés au mouvement occitan. Une fois encore, les Occitans, représentés par Lutte Occitane, sont sur le Larzac. Leur solidarité est un peu spéciale. En effet, nous défendons notre terre contre le projet de démantèlement du pays préconisé par le pouvoir. En tant que paysan occitan, je dénonce les plans gouvernementaux, je dénonce la colonisation de notre pays. J'accuse l'État français d'occuper notre pays en implantant partout des camps militaires, de livrer la côte et l'arrière-pays aux voleurs, aux spéculateurs du tourisme, de piller nos ressources naturelles, nos matières premières. J'accuse l'État français d'utiliser le modernisme, la technique, la course à la rentabilité afin d'anéantir ou d'asservir les travailleurs de la terre. J'accuse en outre les valets du pouvoir représentés par la FNCA, le CNJA, les SAFER, le Crédit Agricole et autres parasites des agriculteurs.
Voilà, la jeunesse qui vomit l'armée, c'est nous et nous sommes aujourd'hui sur le plateau de Fréquence Paris Pluriel. On est ensemble jusqu'à 20h30 dans l'émission Les Oreilles Loin du Front. On est ce soir avec Yvan Bruneau qui nous parle de la Confédération Paysanne. Moi, j'aurais aimé que tu nous parles un petit peu de la Confédération Paysanne aujourd'hui et comment elle s'inscrit dans le paysage politique, dans le paysage politique spécifique du syndicalisme paysan d'un côté, mais aussi une inscription plus ouverte, plus large sur le reste de l'espace politique à gauche qui déborde très largement les questions paysannes. Et toi, tu présentes ça sur trois axes. Tu dis qu'il y a trois axes d'intervention de la Confédération paysanne, et puis tu nous diras peut-être aussi si ces axes rentrent parfois en conflit les uns avec les autres.
D'accord. Oui, j'ai effectivement, on peut parler de trois axes. Alors, c'est d'abord un syndicat, donc, agricole, de défense des intérêts professionnels, qui cherche à assurer sa distinction dans le monde agricole. Alors, concrètement, en fait, on peut distinguer quelques mesures, programmatiques, grosso modo. D'abord, la Confédération paysanne cherche à assurer le maintien d'un maximum d'agriculteurs, grosso modo. Alors, sur quoi s'appuie-t-elle? Tout d'abord sur ce qu'elle appelle la maîtrise de la production, pour éviter la surproduction, et notamment sur certains marchés, je pense à la production porcine, où on a une surproduction structurelle, et donc la Confédération paysanne réclame, sur la plupart des dossiers, la maîtrise de la production. Ça, c'est un premier point important. D'une manière générale, elle cherche aussi à lutter contre les agrandissements excessifs. Elle a un slogan qui dit « trois fermes valent mieux qu'une grande », par exemple. Donc ça me semble assez explicite. Donc, et elle cherche à favoriser l'installation des jeunes agriculteurs. Grosso modo, elle demande des mesures de soutien à la pluriactivité, à l'installation progressive. Ça, c'est un premier point. Et elle demande à ce que les aides à l'installation soient quelque peu transformées et profitent à d'autres types d'agriculteurs qui sont considérés encore aujourd'hui comme marginaux. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Donc, plus d'agriculteurs. Lutte pour qu'il y ait plus d'agriculteurs. En tout cas, que la diminution constante du nombre d'agriculteurs soit enrayée. Ça, c'est central dans son discours. Alors, d'autre part, elle cherche évidemment à réagir en cas de crise. Quand il y a une crise, comme la crise de la vache folle, par exemple, 96 et 2000, elle propose, évidemment, comme les autres syndicats agricoles, des mesures d'aide, des mesures d'urgence, des mesures de soutien immédiat aux agriculteurs en difficulté. Alors, on peut prendre le cas de la vache folle parce que ça me semble intéressant. D'une manière générale, elle cherche, donc elle demande des mesures d'urgence, et puis en même temps, elle met en relation donc son discours en cas de crise avec ses propositions programmatiques. Sur la crise de la vache folle, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que grosso modo, la crise de la vache folle est le résultat d'un système absurde qui a abouti à ce que des herbivores soient nourris avec des farines carnées. Grosso modo, c'est ça. Donc elle engage à développer ce qu'on appelle l'autonomie des exploitations, donc à réduire les achats vers l'extérieur, et notamment à ce que les systèmes herbes, d'alimentation à l'herbe, se développent. Voilà. Alors ça, c'est un discours typique du dosage entre mesures d'urgence et mesures à plus long terme. Donc voilà, on peut dire ça grosso modo, pour résumer, sur le premier axe. Le second axe, c'est quoi? Alors, la Confédération paysanne reste minoritaire dans le monde agricole. Alors, 26% en 2001, 20% là en janvier 2007. Elle a perdu 7 points quasiment entre 2001 et 2007. Alors, comment faire dans ces conditions pour peser malgré tout sur la définition des politiques agricoles? Et donc, elle n'a pas d'autre choix que de chercher des soutiens à l'extérieur du monde agricole, d'établir des relations horizontales, donc avec des acteurs extérieurs, des organisations de consommateurs, des organisations écologistes, etc. Donc ça, c'est une constante, puisque pour le coup, le discours anticorporatiste de Bernard Lambert, ça, cette tradition-là, elle est toujours reprise et valorisée au sein du syndicat. Ça, c'est quand même une dimension importante, cette nécessité d'aller chercher des alliances, d'aller regarder ce qui se passe ailleurs et d'aller chercher des alliances ailleurs. Cette dimension est fortement valorisée au sein du syndicat. Alors le problème, c'est que... Autant cette dimension est valorisée, on l'a bien vu après le démontage du McDonald's, on va chercher des soutiens ailleurs. Mais à partir du moment où la Confédération paysanne apparaît au cœur du mouvement anti-altermondialisation, où elle s'affiche dans les manifestations avec des organisations partisanes, comme la LCR, des mouvements anarchistes ou des associations comme ATTAC, le risque, ce que disent certains militants, c'est qu'il y a un risque que justement la Confédération paysanne, dans le monde paysan, ne soit plus considérée comme un syndicat agricole. Donc le problème, c'est jusqu'où aller. Et donc il y a eu un débat national là, en 2002, 2002 et 2003. Il y a eu un conflit entre orientations stratégiques qui avait pour enjeu cette question. Jusqu'où on va dans la recherche de ces alliances. Alors, en fait, il y a une assemblée générale en 2002, c'est-à-dire qu'il y a des anciens responsables nationaux qui déposent des amendements au rapport moral, qui sont des amendements contre le secrétariat national en place. Dans ce secrétariat national, il y a José Bové, par exemple, et d'autres militants néo-ruraux, plutôt du sud de la France, ayant passé d'extrême-gauche, investis dans le mouvement altermondialiste. Voilà, grosso modo, c'est ça. Il y a... le secrétaire national appelle à des contributions départementales. Il y a une assemblée générale extraordinaire en janvier 2003, puis ça va se régler progressivement. Et puis la composition du secrétariat national va se rééquilibrer. On va faire rentrer au comité national et au secrétariat national des gens qui, sans être hostiles à l'inscription du syndical dans le mouvement altermondialiste, sont sur des positions un peu plus... légèrement différentes, quoi, voilà.
Et ce rééquilibrage, c'est ce qui explique l'échec quand même relatif aux dernières élections professionnelles.
Ça, pour le coup, il est très difficile de le savoir. Parce que en 2001, on a entendu, certains journalistes ont écrit, que la Confédération paysanne aurait plus progressé si José Bové n'avait pas été aussi médiatisé. Bon, les partisans de José Bové disaient l'inverse. Là, José Bové n'était plus dans le syndicat. Et la Confédération paysanne a perdu 6 points. Alors d'autres en profitent pour dire que la Confédération paysanne a perdu des points parce que José Bové se présentait à la présidentielle. Alors en fait, on ne sait pas. Voilà, la réalité, c'est que moi, je ne peux pas répondre parce qu'on manque d'enquêtes sérieuses, et notamment des enquêtes qualitatives, de longues enquêtes par entretien, etc., pour savoir exactement ce que les paysans veulent dire quand ils votent pour l'un ou pour l'autre des syndicats.
Et justement, dans cet ancrage, dans les luttes sociales et politiques plus larges, on voit quand même qu'ils s'investissent dans des luttes vraiment beaucoup plus larges, comme notamment les luttes sur la Nouvelle-Calédonie, où ils ont toujours été partie prenante. Et donc, en te posant cette question, je voulais aussi te demander, est-ce qu'ils s'investissent aussi dans les luttes sociales et syndicales plus classiques, par exemple les mouvements sur les retraites d'il y a 2 ans, ou même 95, etc. Comment est-ce que se situe la conf dans tout cet espace,
en 95, ils étaient présents. En 94, par exemple, ils ont assuré généralement la logistique des marches de l'association AC, les marches de chômeurs. On les retrouve plus ou moins. Ils ont instauré des relations avec le DAL assez vite, en 94, avec le GISTI également. Donc on les a retrouvés. Mais alors, ils ne sont pas nombreux, d'abord. Ça, c'est quand même très, très important par rapport aux syndicats. Je pense évidemment à la CGT, la Confédération paysanne. Ça ne représente vraiment pas grand-chose. C'est à peine 10 000 adhérents au niveau national. Et c'est dans certains départements une cinquantaine d'adhérents. Donc, de ce fait, elle ne peut pas peser de toute façon sur la création d'un mouvement social élargi. Pour le coup, d'ailleurs, a posteriori, on peut se dire que la place de la Confédération paysanne dans le mouvement altermondialiste relève quelque peu du miracle, parce que par rapport aux autres organisations, c'est quand même une petite organisation. Donc ça, c'est le premier point. Mais on les retrouve, ils soutiennent. Ils soutiennent régulièrement le mouvement des retraites contre le CPE. Évidemment, ils soutiennent, ils sont présents, ils manifestent de temps en temps, mais c'est quand même pas une force motrice, en tout cas dans la genèse de ces mouvements. En tout cas.
Oui, mais peut-être que par leurs revendications, ils arrivent quand même à peser sur justement les mots d'ordre qui sont mis en avant dans le mouvement altermondialiste. Je pense notamment à la dimension internationaliste que peut avoir la Confédération paysanne via Compicina, justement.
Oui, alors par contre, si elle n'a pas pesé, en tout cas, elle a pu influencer les termes des débats, notamment sur l'OMC, par exemple. Indéniablement, l'action du McDo, puis la présence de José Bové à Seattle à l'automne 99, a quand même fait évoluer le débat, a fait connaître la problématique de l'OMC, et là-dessus, elle a pesé, comme sur les OGM.
Voilà,
on ne parlerait pas des OGM aujourd'hui, sérieusement, si la Confédération paysanne n'avait pas fauché des champs de culture, de maïs ou d'autres. Donc, Oui, elle pèse en tout cas sur la définition des débats, ça c'est certain.
Justement, tu évoquais les OGM, ça a l'air d'être quelque chose d'assez essentiel. Enfin, on voit une partie des dirigeants de la Confédération paysanne aller en prison à répétition. On voit aussi l'appel qu'ils font à la société civile, en disant on peut plus faire ça seul. Ça a l'air d'être quelque chose de très qui cristallise beaucoup d'énergie du mouvement. Tu le vois comment, toi, ça ?
Alors, ça cristallise énormément d'énergie. D'ailleurs, certains au syndicat ont regretté que les finances du syndicat soient souvent consacrées, évidemment, à payer les avocats et autres, indéniablement. Et puis, certains militants ont été en prison, donc c'est jamais agréable pour les militants et puis pour l'organisation. Ça prive de moyens humains aussi, concrètement. Alors, c'est très important. Alors, pour deux raisons. Il y a tout d'abord le discours environnemental.
Hein, qui est une tradition au sein de...
Alors, qui est une tradition ? Non, disons que ça apparaît grosso modo au début des années 80, plutôt par certains militants qui s'installent dans le sud, par exemple, des néo-ruraux, mais pas systématiquement. Et ça se développe et ça remonte vers l'ouest. Et maintenant, c'est relativement bien partagé par l'ensemble des militants. Cela dit, les exploitations évoluent à un rythme variable. Quoi, voilà, on peut dire ça comme ça. Alors il y a cette question environnementale, puisque les essais OGM, le problème pour la Confédération paysanne, c'est la contamination des champs voisins dans lesquels il n'y a pas de culture OGM. Donc ça, c'est un premier point. Et puis il y a un deuxième point qu'on retrouve, c'est celui de la domination des firmes, des multinationales des semences, comme Monsanto ou Novartis. Là, on retrouve le discours sur « on nous prive de notre autonomie ». On redevient dépendant de ces firmes, etc. Donc on a les deux discours, mais dans un premier temps, d'ailleurs, je pense qu'on peut dire que c'est d'abord le discours anti-multinational qui a joué, à mon avis.
Ce qui est entendable dans le milieu paysan indépendant.
Sur les firmes, oui, ouais. Ça pèse, bien sûr. Oui, ça joue. Hein.
Alors peut-être pour terminer, voir la Confédération paysanne depuis Millau, moi j'ai l'impression qu'elle a réussi à s'inscrire dans un paysage politique contestataire à l'extrême gauche et qu'elle est devenue un des éléments du paysage contestataire de l'extrême gauche. Est-ce que on revient un peu sur tout ce qu'on a dit. Est-ce que c'était vraiment leur volonté ou est-ce qu'ils sont dépassés par quelque chose est-ce que l'appareil est dépassé par quelque chose qu'ils n'ont pas géré ?
Alors tout d'abord, ils ne l'ont pas géré. Ils n'étaient pas préparés du tout à cette médiatisation assez exceptionnelle de l'après 99, enfin, de l'après démontage, ça c'est évident. Alors, il y a certains militants que ça ne réjouirait pas, ce que tu dis, que c'est une force d'extrême gauche, etc. Parce qu'il y a encore des militants qui pensent, enfin, qui croient que malgré tout, le Parti socialiste reste le relais le plus efficace pour modifier les politiques agricoles. On a encore des militants qui restent sans être militants, ils sont très peu nombreux, je pense, à être militants aujourd'hui, mais sympathisants, ou en tout cas qui se sentent malgré tout proches du Parti socialiste. Il y en a beaucoup. Ce sont simplement pas forcément les plus visibles. Puisque généralement les actions anti-OGM, le McDo, enfin, Seattle, etc., on a vu des néos, plutôt ceux qui avaient plutôt un passé gauchiste et encore situés à l'extrême gauche, un gauchiste au sens large. Donc ce ne sont pas les plus visibles, mais le syndicat n'est pas composé uniquement de militants d'extrême gauche, enfin de militants de syndicalistes ancrés à l'extrême gauche, loin de là.
On s'achemine tout doucement vers la fin de l'émission et quand ça passe trop vite, c'est le signe qu'on a appris beaucoup de choses. Donc on va te remercier, Yvan, hein, pour toutes ces informations que tu nous as apportées sur la Confédération paysanne et qui permettent de nous éclairer donc en fait sur le statut de la panoplie d'offres politiques actuelles sur le marché. On voulait pas consacrer cette émission aux querelles récentes dans la gauche de la gauche ni celles qui ont porté plus précisément sur la candidature unique. On voulait prendre un peu de recul et analyser ce phénomène du syndicalisme paysan dont on parle peu alors qu'on voit que souvent les paysans sont partie prenante des révoltes que ce soit en France mais plus largement dans le monde. L'Amérique latine en témoigne souvent et que ce soit une population dont on parle peu dans les discours politiques consacrés. Donc ça nous faisait plaisir de parler de ce sujet aujourd'hui.
Et là, nous ne faisons pas d'illusions. Le mode de développement capitaliste ne peut qu'engendrer cette exploitation de l'homme par l'homme. Face à cet ennemi commun, il faut une lutte commune pour imposer notre droit à la vie et préparer une société où il fera bon vivre parce qu'elle sera créée par les travailleurs. Ce n'est donc pas par hasard si nous sommes tous ici d'âge, de sexe, de profession, de nationalité différente. Le Larzac, c'est le lieu privilégié de jonction de tous ces combats. Notre présence aujourd'hui, c'est une étape dans cette lutte. Et cela veut dire aussi, pour l'immédiat, et je pèse mes mots, que nous nous engageons à venir appuyer les paysans du Larzac en cas d'expropriation. Qu'on se le dise.
« Voilà, voilà, c'était Les Oreilles Loin du Front, une émission à la croissance raisonnée et raisonnable, avec ce soir sur le plateau les agriculteurs exploités de la Radio Libre. Il y avait donc Guillaume Yom et son beau tracteur tout rouge. Il y avait Cédric et sa moissonneuse batteuse qui fonctionne à l'huile de friture, une invention personnelle. Il y avait aussi notre parité à elle toute seule, la semeuse autoritaire Juliette. Et puis la solidarité avec la classe ouvrière était de mise, un doigt sur la console, un autre sur la détente. Il y avait Atomic Jérémy de l'autre côté de la vitrine. Et puis le retour de l'enfant prodigue de la radio libre se fait ce soir, et puisqu'il est désormais néo-rural, c'était Frédéric qui nous a retrouvés. Alors ce soir, nous recevions l'homme qui porte le même nom qu'Yvan Bruno, c'était donc Yvan Bruno. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, on vous abandonne dans les bras d'Écho du Capricorne, puisque voici Claudia, que ce soir j'ai de la fièvre et que toi tu meurs de froid.